France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Depuis que l'administration Trump a divulgué 3,5 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein, comment traiter une telle masse de données sans céder pour autant à un chaos informationnel? Si ces documents mettent au jour un réseau organisé autour de la pédocriminalité, crée-t-il également un risque de confusion entre l'analyse rigoureuse qu'en livreront les journalistes et les interprétations conspirationnistes qui peuvent se développer ici et là sur les réseaux sociaux? Comment distinguer au juste le travail de l'investigation, consistant à déceler de véritables mensonges ou manipulations, du complotisme, cet imaginaire qui, prétendant démasquer ce qui tire les ficelles du pouvoir, désigne toujours les mêmes accusés et les mêmes boucs émissaires? Arrive-t-il qu'une théorie du complot puisse avoir accidentellement raison? Enfin, le fact-checking est-il vraiment une méthode suffisante pour lutter contre les fake news, à l'heure où celles-ci sont les symptômes d'une défiance plus profonde? Comment l'affaire Epstein réinvente-t-elle notre rapport au complotisme? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du professeur en sciences de l'information Nicolas Hubé, du chercheur en psychologie sociale Kenzo Nera et de l'historienne Marie Pelletier.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Marie Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes historienne et auteure de L'ère du complotisme aux éditions Les Petits Matins. Bonjour Nicolas Hubé.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine et auteur notamment d'une introduction à la communication politique avec Philippe Aldrin aux éditions de Box Supérieur. Et bonjour Kenzo Nera.
Bonjour.
Vous êtes chercheur postdoctoral en psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles et auteur de Complotisme et quête identitaire aux presses universitaires de France. Alors, quand on a préparé cette émission avec Aline Biet, on a réfléchi toute la semaine avec évidemment une difficulté. C'est que l'affaire Epstein est tellement tentaculaire qu'elle peut être saisie, appréhendée depuis des angles extrêmement différents et avec des questions directrices qui iraient dans des perspectives divergentes. Il y aurait une première manière, évidemment, ce serait d'étudier cette affaire en elle-même, ce qu'elle nous dit des violences sexuelles, ce qu'elle nous dit de la pédocriminalité, ce qu'elle nous dit de certains pactes de corruption et de criminalité qui peuvent se développer. Et il y aurait une manière, entre guillemets, plus méta, nous invitant à réfléchir sur la manière dont cette affaire a été traité dans le débat public, a changé peut-être aussi notre vision du journalisme, du complotisme, du rapport à la vérité. Et c'était le point de départ, la question que je voulais vous soumettre d'abord, Nicolas Hubé. Nous avons assisté quand même à quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire à la divulgation massive par les États-Unis de 3,5 millions de documents, certains ayant un intérêt judiciaire, d'autres étant des messages notamment privés. Quel rapport à l'information cette divulgation crée-t-elle dans notre société?
Je crois que ce qui est en effet complètement inédit, c'est d'une part la masse de documents, vous avez dit 3,5 millions de documents, et puis le fait que ce soit une institution judiciaire qui le fasse. Si on regarde 10 ans auparavant, nous avions déjà une masse de documents qui étaient les Wikileaks, sortis par Julian Assange sur le problème en Irak et en Afghanistan, des pratiques de l'armée américaine, mais on était cette fois-ci du côté de fuites, des leaks, et le traitement avait été fait d'abord et massivement par des journalistes, le New York Times, le Guardian, le Monde, El País, etc. Là, effectivement, ce qui change, c'est que tout est mis sur la place publique, tout, mais en même temps, pas complètement tout, ou des documents qui sont partiellement tronqués, des noms de victimes qui sortent, mais pas les noms d'accusés. Et puis, le fait que désormais, chacun puisse aller faire ses propres recherches avec son ordinateur depuis chez soi. Et donc, ça peut alimenter toute forme de fantasme, imagination, ou, à l'inverse, faire sortir tout un ensemble d'affaires. Là, on est au cœur de l'affaire Jack Lang en France, qui est aussi, j'allais dire, non pas une victime collatérale, mais un accusé collatéral, mais sur un autre sujet.
Alors, en effet, cette publication massive a engendré peut-être cette ambiguïté dont vous parlez entre l'information et certaines interprétations parfois fantasmatiques. Kenzo Nera, en faisant ma revue de presse pour préparer l'émission, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup aussi d'analyses ou même de titres d'articles soulignant presque la relation en miroir qui se nouait entre la vérité et la théorie du complot. Je cite quelques titres dans les journaux. Epstein ou la théorie du complot qui était vraie. Les Epstein Files donnent-ils raison aux complotistes? L'affaire Epstein réunit tous les éléments d'un bon complot. Trois titres de journaux que je vous cite. Kenzo Nera, est-ce que cet accès aux preuves vient toucher à un nouveau rapport dans notre vision du complotisme?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours tendance à définir la théorie du complot en termes de... comment dire, en termes de thèse défendue. On dit une théorie du complot, c'est une accusation de complot qui met en scène tel type d'acteur, par exemple, ou tel type d'événement. Alors que la théorie du complot, ce n'est pas que ça, c'est aussi une manière d'administrer la preuve et de prouver ce que vous avancez. Une manière de définir la théorie du complot, bon, il y a énormément de définitions qui coexistent, hein, mais une définition que je trouve assez éclairante, c'est l'idée qu'une théorie du complot, c'est une accusation de complot qui ne fait pas consensus et qui se base sur des informations accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que le complotisme, le conspirationniste, on va dire, stéréotypé, c'est pas quelqu'un qui va avoir accès aux arcanes du pouvoir ou à des documents secrets ni rien, c'est des gens qui vont avoir accès, comme tout le monde, aux images, à la télévision, aux photos, etc., ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et la situation ici, elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a cette énorme déclassification de documents qui fait que d'un coup, ce qui constitue justement ces informations accessibles au public, ça, c'est complètement bouleversé d'une certaine façon. Et c'est pour ça que moi, je suis un petit peu gêné quand on pose la question de « est-ce que ça donne raison aux complotistes ?» Parce que, pour moi, à partir du moment où... Ce n'est pas parce que les documents révélés incriminent un certain nombre de personnes que les gens qui créent au complot avant que ces données soient disponibles avaient raison. Déjà, souvent, ce qu'affirment les gens qui croient aux théories du complot, c'est des choses relativement vagues, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils ont raison rétrospectivement, mais en réalité, par exemple, le fait qu'il y avait une affaire potentielle de réseau pédocriminel, c'est quelque chose qui était même admis par la justice, vu que Jeffrey Epstein était supposé comparaître devant la justice autour de cette question. Donc, pour moi, c'est vraiment cette déclassification de documents. Ça soulève vraiment la question de finalement qu'est-ce qu'on définit comme la théorie du complot, qu'est-ce qu'on définit comme le complotisme, et encore une fois, quelles sont les preuves qu'on apporte et quel est l'accès qu'on a aux preuves en question.
Marie Pelletier, il y a peut-être un troisième aspect qui mérite d'être considéré, à savoir que devant une publication aussi massive et aussi indifférenciée, une analyse, une appréhension complotiste de ces documents consistant à y tirer son interprétation relève d'un phénomène plus large que vous appelez le cherry picking et dont vous dites qu'il nous concerne toutes et tous finalement, et pas seulement les complotistes.
Bah oui, de manière générale, on a tous tendance à vouloir confirmer notre vision du monde, et évidemment que quand il y a une masse d'informations où chacun peut aller chercher les informations qui l'intéressent, et je pense d'ailleurs qu'on le fait tous, hein, pour le moment, d'aller googler des noms, etc., avec le dossier Epstein pour voir s'il se trouve ou non, s'il y a des connexions ou pas, etc. Mais donc ça veut dire qu'on va avoir tendance, et là ça ne concerne pas seulement les conspirationnistes, parce que je pense qu'il y a aussi un danger à toujours mettre le focus sur les conspirationnistes, c'est qu'en fait on va avoir une tendance collective aller quelque part essayer de conforter notre vision du monde. Et c'est normal parce que c'est finalement ce qu'on recherche avant tout quand on s'exprime dans le débat public, c'est apporter un récit. Et donc quand on a une masse d'informations brutes, la question n'est pas tant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, puisqu'ici on a quand même en tout cas quantité d'informations qui sont entre guillemets véritables ou en tout cas vérifiables, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on en fait et comment on va les mettre en récit. En fait, il faut rappeler que le complotisme, c'est une mise en récit, mais ce n'est pas la seule mise en récit. On a tous besoin de mettre en récit le monde qui nous entoure en quelque sorte. Et plus on a d'informations, plus on a possibilité quelque part de trouver les éléments qui vont pouvoir abonder, on pourrait dire, dans le sens du récit qu'on porte, de la vision idéologique qu'on a envie de mettre en avant, tout simplement.
C'est très intéressant ce que vous dites, mais si je radicalise ce que je comprends de votre analyse, finalement, ce risque de la grille de lecture, de la mise en récit, nous a toutes et tous concernés depuis le début de cette affaire. Donc, il y aurait eu presque un problème général dans le débat public, peut-être dans les médias, sur les réseaux sociaux, d'appréhension globale des documents Epstein.
Moi, je pense qu'il y a un gros souci de traitement de l'information de manière générale sur cette affaire, mais je ne jette pas la pierre aux journalistes en disant ça, parce que c'est une affaire extrêmement difficile à traiter. Donc, je dis pas que c'est évident, mais il y a eu, moi, je trouve assez rapidement, en tout cas dans la presse francophone, un focus sur le conspirationnisme, justement. Et je suis pas sûre que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que oui, je pense qu'il faut évoquer le conspirationnisme, parce que c'est une mise en récit qui, malheureusement, a pris beaucoup de place dans nos sociétés, et effectivement, comme on l'a dit, il y a ici des éléments narratifs qui semblent corroborer le récit conspirationniste, même si effectivement, Kenzo l'a très bien rappelé, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en fait, si on parle que du conspirationnisme, on ne propose pas d'autres grilles de lecture. Je trouve que le rôle de la presse aussi, c'est de proposer des grilles de lecture. C'est pas seulement, on y reviendra plus tard, sans doute dans l'émission, mais de dire ceci est vrai, ceci est faux, mais c'est de dire aussi qu'est-ce qu'on fait de ces informations, en quelque sorte, et parler notamment d'une perspective démocratique. Il faut rappeler quand même que le complotisme, c'est pas une perspective démocratique. Hein. C'est globalement une perspective de défiance à l'égard des institutions démocratiques qui sont perçues comme manipulatrices, vengeresses, menteuses, etc. Mais donc, il faut aussi proposer une alternative à cette posture-là. Et je trouve que globalement, et c'est pas seulement le fait des journalistes, hein, c'est un problème de société assez massif, à mes yeux, on manque de propositions de grilles de lecture alternatives, de récits démocratiques forts, en quelque sorte, qu'on puisse porter collectivement. Et je trouve que cette affaire le met bien en lumière, en quelque sorte.
Alors Marie Pelletier vient de dire qu'il y a un focus sur le conspirationnisme. C'est en effet, et c'est toute la question qu'on s'est posée en préparant l'émission de nouveau, hein, c'est-à-dire que est-ce qu'on participe de ce focus en faisant cette émission, ou est-ce qu'on fait une émission qui essaye de réfléchir sur le focus? Nicolas Hubé, est-ce que quand même, ce qui est intéressant dans ces documents, c'est que les complotistes ont beau jeu de dire « Oh, ça confirme tout ce qu'on avait dit depuis des années », mais il y a quand même des éléments qui mettent en cause des complotistes eux-mêmes. Par exemple, Steve Bannon, dont on apprend qu'il avait une proximité manifeste avec Epstein, qu'il a notamment fait une interview très longue de lui, beaucoup de mails. Est-ce que finalement, on pourrait avoir une lecture inverse de cette divulgation en disant « Ça donne complètement, non seulement ça donne tort, mais c'est une défaite du complotisme ».
Je crois que, comme ça a été rappelé par mes deux collègues, on peut tout faire de ce document, de ces documents, parce que la masse est tellement vertigineuse, parce que les faits sont vertigineux, aussi parce que ça vient toucher des fantasmes politiques tout aussi vertigineux. C'est-à-dire que quand on regarde les Epstein Files, on est chez le marquis de Sade et les 120 journées de Gomorre, qui déjà, depuis la Bastille, écrivait en 1780 et quelques que quatre notables, dont un curé, un banquier, s'adonnaient à de la pédocriminalité, etc., etc. Donc ça vient toucher cette mise en récit dont parlaient mes deux collègues. Donc là, on peut tout y dire. Alors, ce qui est aussi intéressant dans cette lecture, c'est que effectivement il y a des faits, mais ensuite c'est l'interprétation qu'on va y coller. Et donc on va pas voir Bannon quand on veut dénoncer autre chose. C'est par exemple Philippe de Villiers qui, début de semaine, reprend un argumentaire des QAnon expliquant que tout ça a été un vaste réseau pédosataniste, par exemple, qui était une théorie assez mineure de la décadence des élites qui ne sont plus chrétiennes. Et donc, du coup, ça vient toujours prouver des choses. Et quand bien même il n'y a pas de preuves, on peut toujours prouver autre chose, puisque on peut se dire, on a un pédocriminel qui a une île, et comme par hasard, diraient les complotistes, c'est les îles Vierges. Donc, on voit la perversion jusqu'au bout de s'installer dans une île. Donc, tout était écrit d'avance, etc., etc. Donc, c'est vraiment ici aller chercher une rationalité, un récit, à partir de ces faits. Et c'est ça que posent ces documents.
Alors, je vous propose de nous éloigner un petit peu de l'affaire Epstein pour interroger cette nouvelle conception du conspirationnisme, ou cette déconstruction du mot, ou cette réflexion sur le mot, en commençant par tâcher de le définir.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Il y a déjà quelque temps que je me suis aperçu que, dès mes premières années, j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables. De façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement, une fois en ma vie, de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues et commencer tout de nouveau si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs. Pourtant, il se rencontre beaucoup de choses desquelles on ne peut pas raisonnablement douter. Par exemple, que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi ?
Nous entendions le début des méditations métaphysiques de Descartes, cette incitation philosophique à pratiquer un doute radical, méthodique, épistémologique et métaphysique à la fois, doute qui nous invite à mettre en suspens toutes les connaissances qui nous sont données pour évidentes sans avoir de preuves. Pourquoi je tenais à ce que nous entendions ce texte ? Parce que le doute est peut-être la méthode, dont, enfin en tout cas l'instinct, dont se réclament les complotistes, eux qui instrumentalisent souvent cet héritage cartésien en disant, de même que Descartes doutait de ce qu'on lui avait imposé comme vrai, eh bien nous aussi, nous ne tenons pas pour vrai ce que nous lisons dans les journaux. Pourtant, Kenzo Nera, dans votre livre, vous montrez que quand même un monde entier sépare le scepticisme philosophique ou le doute cartésien du complotisme qui fonctionne, dites-vous, comme une idéologie à part entière, avec un dogmatisme immanent. Je lis notamment un des critères de définition que vous donnez du complotisme. Vous rappelez d'abord que ce sont des théories qui dépeignent les comploteurs comme surnaturellement malfaisants et puissants. Donc il y a une sorte de préjugé, de dogme qui est inscrit dans l'appréhension complotiste du réel et qui précède la démarche du doute. Et vous dites aussi que les théories du complot sont des affirmations selon lesquelles le public serait intentionnellement dupé à grande échelle pour permettre à un ou plusieurs groupes de mettre en œuvre un plan nuisible au reste de la société. Ce que je trouve très intéressant dans la définition que vous donnez des théories du complot, c'est que vous dites que ce sont des affirmations. Donc les complotistes mentent quand ils disent qu'ils questionnent le réel ou qu'ils doutent.
Alors la question est un petit peu, comment dire, la réponse est un petit peu complexe. C'est-à-dire qu'en fait, dire juste qu'on doute de quelque chose de façon générale, c'est assez illusoire, je pense, parce que de façon générale, si on remet en question un récit, par exemple, typiquement un récit officiel, c'est que derrière, on considère qu'il y a une autre hypothèse qui nous paraît à nous davantage crédible. Donc cette notion d'affirmation, en fait, elle n'est pas forcément liée à la notion de dogme. C'est juste que de façon générale, les humains raisonnent en posant des hypothèses. Il y a des choses qui tiennent pour plus ou moins vraies, plus ou moins probables. Et derrière ça, ils vont interpréter les données qui leur parviennent, les preuves, etc. De façon à, comme le disait Marie Pelletier un peu plus tôt, de façon à globalement essayer de confirmer ce qu'ils croient déjà. Et ça, c'est vraiment un mécanisme psychologique très 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 général et qui est partagé par tous les humains. C'est-à-dire, on a une espèce d'aversion à l'infirmation de nos croyances. Donc que ce soit sur le complotisme ou les théories du complot, on ne doute pas simplement, c'est juste qu'on croit certaines choses, notamment en ce qui concerne la corruption des élites, des médias, etc. Et on va aller sélectivement vers les informations qui vont corroborer cette vision du monde.
Alors, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que Descartes lui-même n'était pas complotiste, mais pour forger son doute, il invente cette hypothèse d'un malin génie qui comploterait pour lui faire croire, tenir pour vrai ce qui est faux. Marie Pelletier, il y aurait une définition philosophique donc à donner du complotisme, mais il y a aussi une généalogie historique que vous proposez dans votre livre « L'ère du complotisme » en montrant qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement ancien, mais qui s'est structuré au XVIIIe siècle en même temps, disons, que la Révolution française.
Oui, c'est quelque chose que j'aime, bon, évidemment parce que je suis historienne, mais que j'aime toujours bien rappeler cette généalogie, c'est-à-dire que finalement, à travers le temps, le complotisme a toujours été une arme politiquement hostile à l'émancipation, hostile au mouvement démocratique, d'émancipation démocratique de manière générale. Et effectivement, Les premiers écrits conspirationnistes, alors c'est pas pour ça qu'il en existait pas avant, mais en tout cas structurés idéologiquement dans la forme qu'on connaît actuellement, ils apparaissent dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle dans le contexte de la pré-révolution française bien sûr, et dans une optique de discréditer l'élan révolutionnaire, de dire en quelque sorte tout ça est un complot, et un complot en l'occurrence principalement des francs-maçons, des illuminés de Bavière, les fameux Illuminati dont on reparle quand même pas mal aujourd'hui. Et donc, on va avoir une espèce de structuration narrative qui va se mettre à ce moment-là. Mais j'aime toujours bien rappeler le but politique. Parce que je pense que dans l'anticonspirationnisme, on a tendance beaucoup à analyser les mécaniques et c'est extrêmement important. Mais on oublie parfois de rappeler que, comme on le disait tout à l'heure, un récit, ça a une perspective, une vision, bien sûr. Et donc, ça sert des intérêts politiques. Là, en l'occurrence, c'était des acteurs pro-monarchie, évidemment catholiques, hein, qui ne voulaient pas de la déstabilisation du pouvoir de la monarchie en France. Et donc on va avoir ce fil conducteur qui va se retrouver à travers le temps, puisqu'on a eu aussi, pour le dire très brièvement, à la jonction entre le 19e et le 20e siècle, un écrit conspirationniste très fondamental, on pourrait dire, ce sont les protocoles des sages de Sion, qui émerge aussi dans un contexte pré-révolutionnaire, puisque celui-ci, c'est celui de la pré-révolution russe. Et c'est un écrit, évidemment, fondamentalement antisémite, hein, on le sait, et qui qui décrit ce qui serait, soi-disant, un grand complot juif pour dominer le monde à travers, justement, les révolutions, l'émancipation, les révolutions politiques, économiques, etc. Donc on voit vraiment cette trame qui va perdurer à travers le temps. Et ce qu'il faut rappeler, historiquement, pour donner vraiment quelques balises très brève, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale et bien évidemment le génocide juif, il y a eu quand même une prise de conscience dans les sociétés européennes de ce à quoi ce type de logiciel, ce type de discours avait conduit forcément. Et donc il y a eu, on va dire, une marginalisation du discours conspirationniste. Ça ne veut pas dire une disparition. Il y a eu du conspirationnisme de deuxième moitié du XXe siècle, mais le conspirationnisme a perdu un peu son caractère mainstream dans l'opinion publique, on pourrait dire ça comme ça. C'est important à redire parce que ce qui a permis ça aussi, c'est justement l'existence d'un récit démocratique très fort. La deuxième moitié du XXe siècle, c'est ce qu'on appelle le récit du plus jamais ça, hein, cette idée qu'on s'est structuré en société pour dire plus jamais le fascisme ne doit revenir, on va renforcer les institutions, on va combattre l'antisémitisme et le racisme, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un récit porteur, fédérateur qui nous a tenus en société. Je ne dis pas que tout était parfait, mais en tout cas qui donnait une vision globale. Et très brièvement, enfin très synthétiquement, on pourrait dire que ce récit a commencé à s'effondrer, progressivement bien sûr, à partir de l'entrée dans les années 2000, particulièrement autour d'un fait que les conspirationnistes, comme les non-conspirationnistes, connaissent très bien, c'est le 11 septembre 2001, bien sûr, qui a été un traumatisme et qui, en quelque sorte, a sonné un petit peu la fin du plus jamais ça, puisqu'on avait quand même collectivement penser que la violence ne retoucherait pas nos sociétés. Et là, on voit que ça peut nous arriver, que ça peut de nouveau refragiliser nos sociétés. Et donc, il y a une fragilisation démocratique. Et ce que je tiens à dire, c'est que cette fragilisation démocratique, elle a été exploitée par des acteurs politiques, elle a été exploitée par des acteurs antidémocratiques, on pourrait les définir comme ça, par l'extrême droite, bien sûr, par les acteurs pro-dictature, etc. C'est-à-dire que c'est pas un grand complot mondial, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'il y a un climat de défiance qui s'est installé progressivement dans nos sociétés, mais c'est une défiance qui a été aussi nourrie par des acteurs politiques. Le conspirationnisme, il sort pas de nulle part. C'est pas juste des individus derrière leur PC qui font leur petite théorie du complot. Ça participe aussi d'intérêts politiques, tout simplement. On sait par exemple que le Kremlin est très friand de promouvoir les théories du complot. J'ai travaillé aussi beaucoup, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, sur le Moyen-Orient et la Syrie. Évidemment que les dictateurs du monde arabe utilisent énormément le complotisme pour discréditer leurs opposants, par exemple. Donc c'est vraiment, je pense que ça, c'est important à rappeler. C'est une arme de discrédit démocratique, c'est une arme de défiance. Évidemment, ce qui se passe avec l'affaire Epstein, c'est que quelque part, ça semble, et encore une fois, j'insiste ça semble donner raison à cette défiance. Et donc, l'enjeu pour moi, pour contrer ça, c'est d'essayer de voir comment recréer un climat de confiance dans la démocratie, l'enjeu politique fondamental. Et je pense que c'est très important à redire parce qu'on a un peu tendance à l'oublier en se focalisant beaucoup sur la technique, on pourrait dire ça comme ça, la manière dont ça fonctionne, et en oubliant de se poser la question, mais en fait, le complotisme, c'est au service de qui, de quoi et comment donc on peut proposer un contre-discours à cette vision.
En écoutant Marie Pelletier, je me dis qu'il y a peut-être une contradiction qui est intrinsèque au complotisme, à savoir que d'une part, Marie Pelletier nous a rappelé qu'il est né dans une logique politique qui était d'hostilité à l'émancipation, presque quelque chose de, sinon contre-révolutionnaire, du moins antidémocratique. Et en même temps, Nicolas Hubé, le complotisme prétend, et d'ailleurs c'est vraiment sa revendication première, proposer une critique des institutions, une critique du pouvoir. Si j'exagérais un peu, je dirais, il parle la langue de l'émancipation, non ?
Oui, c'est ce que j'allais également ajouter. Je pense qu'il faut inverser le propos, c'est-à-dire que en revenant à ce que vous disiez de Descartes auparavant, ce qui fait, y compris la démarche scientifique, c'est la question du doute et c'est cette idée que tout fait établi n'est vrai ou toute théorie scientifique n'est vraie tant qu'on n'a pas montré l'inverse. Ce qui fait justement la découverte, c'est le principe de la découverte scientifique. On passe de la théorie de la relativité à une théorie, etc., etc. Donc on peut remettre en cause, et c'est ce qui fait la remise en cause, mais à partir de travaux scientifiques, et c'est par la production scientifique qu'on remet en cause. Mais on dit, ce qui fait le raisonnement, c'est la contradiction et c'est la remise en doute. Et en effet, au milieu du 19e siècle, avec l'arrivée de la presse moderne, on voit aussi apparaître la remise en cause des institutions, et c'est vrai que le complotisme va d'abord se reposer sur une critique des institutions en tant qu'émettrice de vérité. Et on a un journalisme qui va se mettre en place, qui est un journalisme d'investigation, alors qui n'est absolument pas complotiste, mais qui va commencer à regarder ce que font les institutions. C'est aussi ce que montre très bien Boltanski dans son ouvrage Énigmes et complots. C'est le moment également où on a une littérature populaire qui va avoir des Sherlock Holmes qui vont aller regarder ce que font les puissants. Donc on va mettre en place un imaginaire où on peut critiquer les puissants. On va critiquer ces puissants. Donc effectivement, c'est très émancipateur de ce point de vue-là, le journalisme d'investigation. Et c'est parfois, et c'est des questions qui ont traversé le journalisme, jusqu'où faire de l'investigation au risque de menacer la démocratie. Dans les années 20 et 30, on fait beaucoup le parallèle aujourd'hui, c'est aussi la période où on a énormément de journalisme d'investigation, mais en même temps, on va quelque part fragiliser les institutions, parce qu'on va montrer combien elles peuvent être corrompues au sens premier du terme. Donc, quelque part, ces files nous montrent aussi et nous incitent à revenir sur une critique de nos institutions, peut-être à réfléchir à des mécanismes judiciaires pour sanctionner. Et c'est aussi ce que nous dit l'affaire Epstein, c'est-à-dire, voilà, maintenant, il faut peut-être rentrer dans quelque chose de judiciaire. Jack Lang, justement, dans cette situation-là, peut être condamné, on ne sait pas ce qui va advenir de cette histoire, mais en tout cas, on va judiciariser la chose. C'est-à-dire, c'est là que les institutions fonctionnent. Et c'est peut-être ça qu'il ne faut pas rater quand on a ce genre de documents, c'est-à-dire ne pas laisser uniquement les discours, les fantasmes se véhiculer.
Mais alors là, vous proposez peut-être une troisième clé de définition, ou en tout cas de réflexion sur la causalité sur du complotisme, ou sur le terreau sur lequel il peut se développer. Ken Zonera, est-ce que ce n'est pas l'idée aussi que le complotisme est proportionnel au degré d'opacité, voire de corruption ou de failles judiciaires, de failles de vérité qui existent dans une société?
Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, de manière générale, les êtres humains sont rationnellement très imparfaits, mais ils ont quand même une rationalité qui fonctionne dans leur environnement. Et du coup, comme on l'a dit à de nombreuses reprises ici, le complotisme, la méfiance d'institutions ne vient pas de nulle part. Et si vous évoluez d'une société qui est marquée par de nombreux scandales de corruption, par exemple, de façon tout à fait... il y a des travaux qui montrent tout à fait clairement que l'augmentation de la corruption s'accompagne d'une augmentation du complotisme. Ça ne veut pas dire que... Quand on y réfléchit, c'est quelque chose de tout à fait d'extrêmement trivial. C'est simplement l'idée que, si vous évoluez dans un environnement où les puissants et les gouvernements conspirent beaucoup, vous pensez que les puissants et les gouvernements conspirent beaucoup. Ce qui est genre quelque chose d'une trivialité absolue, mais qui est quand même important à rappeler dans un contexte où on a tendance à renvoyer vraiment le complotisme à une affaire d'illuminés qui ne comprennent rien à ce qui se passe.
Bon, maintenant que nous y voyons un petit peu plus clair sur la nature, la définition et l'histoire du complotisme, peut-être faut-il réfléchir à la manière de le combattre.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Monsieur le Président, je vous adresse ce message personnel et confidentiel par porteur, car les conclusions auxquelles je viens d'aboutir dépassent les limites de mon enquête et relèvent de la sécurité de l'État. 1. Je suis en mesure de prouver que l'assassinat du président Marc Jarry a été soigneusement préparé par un groupe de pression qui ne paraît avoir aucune attache dans le gouvernement. Ce complot a été organisé au nom de l'intérêt supérieur de la nation, étant bien entendu qu'un alibi. Les cerveaux de cette conspiration ne visent nullement à renverser le régime au profit d'un autre. Au contraire, ils s'accommodent très bien des structures de ce pays et ils s'en servent. 2. J'accuse les services secrets, ou tout au moins une partie de ces services, d'être les agents d'exécution de ce cerveau suprême. 3. Je les accuse de travailler conjointement avec la grande organisation mondiale du crime quand leurs intérêts se confondent. Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à mes sentiments respectueusement dévoués, Henri Volney.
Et nous entendions la scène finale du formidable film « I comme Icare » de Henri Verneuil, avec le non moins formidable Yves Montand, film qui raconte l'histoire d'un enquêteur qui met précisément au jour un grand complot politique des élites, un crime politique qui va d'ailleurs mourir, comme Icare, en trouvant la vérité. Bon, par-delà cette référence à moitié ironique, Marie Pelletier, dans votre livre « L'ère du complotisme », le dernier chapitre m'a particulièrement intéressé « Comment sortir du complotisme ». Vous y faites deux constats qui sont très stimulants d'un point de vue intellectuel. Vous dites qu'aujourd'hui, les méthodes employées globalement contre le complotisme, à savoir d'une part le fact-checking, c'est-à-dire croire que uniquement en rétablissant l'exactitude des faits, on va en finir avec le complotisme, et deuxièmement la stigmatisation des complotistes, la manière de les décrire, je vous cite, comme des idiots ou comme des farfelus, sont insuffisantes, voire contre-productives.
Oui, sachant que je rappelle que j'ai écrit ça en 2016, hein, parce que c'est un livre qui a été réédité par la suite, donc ça montre bien que le problème est déjà un peu ancien. Je porte effectivement, avec d'autres bien sûr, une critique de l'anticonspirationnisme depuis pas mal d'années, parce que on a eu, c'est ce que vous avez un peu résumé, hein, pour moi, deux problèmes de posture, à la fois le problème de l'ironie ou de la moquerie à l'égard du conspirationnisme, ou en tout cas de la tendance à faire des personnes adhérents au complotisme, des gens soit ignorants, soit ayant des problèmes psychologiques, soit étant complètement confus politiquement. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand on croise et qu'on parle avec des conspirationnistes, on voit des gens très érudits parfois, on voit des gens qui ont parfois une vie tout à fait normale et banale par ailleurs. Donc en fait, on voit bien qu'on a participé d'une stigmatisation des conspirationnistes, c'est qu'elle a été, c'est le moins qu'on puisse dire, assez contre-productive, hein, puisque le conspirationnisme n'a fait que croître ces dernières années. Ça, c'est effectivement pour moi un des premiers grands problèmes qui persiste, hein, avec notamment une tendance à la moquerie. Alors, je dis pas qu'on peut pas faire des petites blagues de temps en temps, hein, bien évidemment, mais si c'est systématique, ça veut dire qu'on n'entend pas, ça a été dit, hein, d'ailleurs par les autres intervenants, on n'entend pas non plus la demande qu'il y a derrière par exemple, les valeurs que peuvent porter les conspirationnistes. Hein. C'est pas parce qu'ils partent dans un récit idéologiquement problématique qu'ils n'ont pas par ailleurs des valeurs politiques qui peuvent tenir la route. Donc ça, je pense que c'est un premier écueil. Et le deuxième écueil, effectivement, c'est la croyance que le seul rétablissement des faits pourra permettre d'enrayer le phénomène. Ça, on l'a vu beaucoup à partir de la première élection de Trump fin 2016, hein, quand ce qu'on a appelé la lutte contre la désinformation a explosé un peu partout au sein des démocraties occidentales, la lutte contre les fake news. C'est devenu aussi un peu une obsession journalistique. Beaucoup de médias ont ouvert leur service de fact-checking, etc. Alors, sans dire évidemment que tout ça n'a aucun sens, il y a eu un peu l'illusion que ça allait suffire à rétablir de la confiance. Et en réalité, les seuls faits ne sont pas suffisants à rétablir de la confiance. D'autant plus que les conspirationnistes eux-mêmes, très souvent, sont convaincus d'être dans une logique de rétablissement des faits. Vous savez, je travaille beaucoup sur la propagande russe, et les propagandistes russes se présentent eux-mêmes très souvent comme des fact-checkers. Ils endossent cette posture de fact-checker. C'est-à-dire que on a l'impression parfois qu'on a une bataille entre deux groupes, évidemment, là je le dis de manière assez schématique, qui, de part et d'autre, prétendent rétablir les faits. Et c'est là qu'entre en ligne de compte, pour moi, justement, la question du récit, c'est de pouvoir aussi aller sur le plan politique, politique évidemment dans un sens non partisan, hein, dans un sens large, c'est-à-dire que finalement, si on ne voit pas que derrière l'adhésion au conspirationnisme, il y a aussi une adhésion politique à une vision du monde qui conduit à des actes politiques très concrets, comme l'élection de Trump, hein. Rappelons quand même que Trump se fait élire sur une rhétorique conspirationniste quand même, hein. Donc si on n'oppose pas un contre-discours à celui-là, un discours de nature politique, moi je suis convaincue qu'on ne répondra pas finalement au problème de fond, qui est un problème, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, de défiance à l'égard de la démocratie. J'ai beaucoup apprécié aussi quand il a été rappelé qu'effectivement ce n'est pas tant un rejet de la démocratie en elle-même que l'impression que la démocratie est un leurre en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle prétend, de ce qu'elle promet. Donc ça veut bien dire qu'il y a un enjeu démocratique et on l'a dit aussi, hein, un enjeu par exemple pour cette affaire à ce que la justice fonctionne, à ce que les institutions qui ont failli se questionnent, à ce que la presse puisse se questionner, etc. C'est-à-dire l'ensemble des acteurs du débat public puissent se questionner sur comment c'est arrivé. Ça reste un scandale démocratique quand même cette affaire Epstein. Et donc je pense que on ne peut pas contrer le conspirationnisme si on ne répond que par le vrai-faux, puisqu'on le voit bien dans cette affaire, quand on a des vraies informations, alors on est un peu dans une impasse, puisqu'on ne se positionne pas. Donc il faut ajouter au fact-checking, en quelque sorte, une parole à la fois d'analyse et une parole de vision démocratique, tout simplement.
Alors vous avez cité, Marie Pelletier, le cas de Trump, c'est en effet très intéressant. On se souvient que lors de sa première élection, son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, en janvier, sa conseillère en communication avait eu cette phrase incroyable en disant « Nous allons donner des alternatives facts, des faits alternatifs ». Kenzo Nera, c'est peut-être une question que ça pose, c'est que face à quelqu'un comme Donald Trump, les journalistes américains et du monde entier ont fait un travail remarquable de fact-checking, de déconstruction, de réfutation des 30 000 contre-vérités qu'il a par exemple proférées lors de son premier mandat, mais que ensuite, pour que de ce fact-checking-là, on aboutisse à une confiance chez les citoyens américains, par exemple, et chez les électeurs de Donald Trump, chez les républicains, eh bien, il y a tout un pas qui n'est pas franchi. Donc, est-ce que derrière la question de l'exactitude factuelle, on ne trouve pas aussi celle de la confiance à accorder à telle ou telle source de vérité?
Si, si, tout à fait. Et je pense que pour, ça fonctionne pour le cas des élections états-uniennes, mais aussi dans le cas des fichiers Epstein. La question du complotisme s'adosse... Je vais repartir sur les fichiers Epstein pour développer ma pensée. Je pense que quelque chose qui est quelque chose que révèle cette affaire, c'est à quel point est-ce qu'on a construit, à quel point est-ce que le complotisme est devenu une espèce d'enjeu intergroupe, comme on dit en psychologie sociale. C'est-à-dire qu'on a très très envie de croire, nous y compris scientifiques, journalistes, bref, les gens entre grosses guillemets raisonnables, selon notre propre point de vue, bien sûr. Et on s'imagine que d'un côté, voyez à nous, et nous on a raison, et de l'autre côté, il y a des complotistes qui sont des gens farfelus. Et je trouve que c'est assez symptomatique à quel point la question de « Oh mon Dieu, est-ce que les conspirationnistes ont raison ?» à quel point est-ce que ça a presque été une espèce de mouvement de panique, j'ai eu l'impression. Comme si, oh mon Dieu, on découvre que les gens qu'on a dépeints pendant tout ce temps comme des hurluberlus irrationnels, l'idée qu'ils puissent avoir, ne serait-ce que certaines de leurs thèses puissent avoir un début de commencement de validation par des faits, comme si c'était quelque chose qui remettait en question, qui chamboulait complètement notre vision du monde, alors qu'en réalité, de façon générale, que ce soit dans la recherche en psychologie sur le complotisme, quelque chose qui ressort, c'est que complotisme, c'est pas quelque chose, soit vous êtes complotiste et rationnel, soit vous ne l'êtes pas, c'est quelque chose qui est très graduel, qui est nuancé, et évidemment, quand il y a un discours aussi général et abstrait que le complotisme existe, évidemment que vous allez trouver des faits qui vont aller dans le sens de ce discours. Enfin, je vais me permettre une analogie. Vous pouvez trouver toutes les anecdotes impliquant... prenez n'importe quel préjugé, parce que le complotisme, c'est aussi des préjugés, donc des stéréotypes, une certaine image des élites. Si vous prenez, par exemple, des préjugés d'un autre ordre, des préjugés racistes, les personnes pourront trouver une tonne de faits anecdotiques qui vont dans le sens de ces préjugés. Ça ne voudra pas dire que le préjugé est validé de façon définitive. Oh mon Dieu, ils ont raison. Donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de flexibilité qu'il faut accepter par rapport à la question de la vérité et du complotisme. C'est-à-dire que, effectivement, en moyenne, c'est une rhétorique qui pousse toute une série de problèmes. Ce n'est pas pour ça que c'est des gens qui auront toujours tort. Et dans l'autre sens, je me permets de continuer parce que je trouve ça très intéressant, c'est que du côté des complotistes, on a parlé du fait qu'il y avait plein de complotistes justement qui ressortaient dans les Epstein Files et ça ressort qu'en fait, justement, de l'autre côté, les personnes complotistes, ils ont souvent cette espèce de représentation, encore une fois binaire, mais d'un autre ordre, entre d'un côté, il y a les gens qui, les chercheurs de vérité, qui sont pleins de vertus, etc. Et de l'autre côté, les élites corrompues. Et on voit dans les Epstein Files qu'il y a des conspirationnistes qui se retrouvent dedans. Donc là encore, c'est aussi une espèce de dichotomie naïve qui vole en éclats. Et donc je pense que, accepter tout simplement le fait que le complotisme, ce n'est pas juste un switch qui est allumé ou éteint chez les gens, c'est vraiment un premier pas pour en discuter de façon plus sereine et je pense moins confuse que ce qu'on a maintenant.
Exactement, je me permets juste de dire que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est le fait que l'imaginaire complotiste est un imaginaire global et donc qu'il se répand à des degrés divers, c'est extrêmement important à rappeler parce qu'on a tendance, notamment dans le traitement médiatique, à faire une frontière comme s'il y avait une frontière claire entre conspirationniste et non-conspirationniste et c'est bien plus complexe et subtil que ça, bien souvent.
Mais finalement, en vous écoutant, je me demande s'il n'y a pas derrière le conspirationnisme l'idée presque « chacun ses faits ». Les faits seraient aussi malléables, aussi divers que les opinions. Est-ce que le conspirationnisme, à cet égard, n'amène pas à réfléchir sur ce que devient peut-être le débat public dans un contexte de polarisation générale, Nicolas Hubé ?
Oui, je crois que mes deux collègues ont déjà rappelé, d'une part, le complotisme n'est pas un mouvement structuré, c'est-à-dire qu'il y a autant de complotisme qu'il y a de préjugés, c'est-à-dire on peut y voir un complot juif mondial, on peut y voir un complot islamiste, on peut y voir un complot pédosataniste, la liste est relativement longue. Donc quand on met nous, élite cultivée, etc., tout le monde derrière l'aspect, derrière l'étiquette, ce sont des complotistes et donc comme il a déjà été rappelé, des personnes qui seraient pas rationnelles, etc., ça nous empêche de voir un certain nombre de choses. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faits, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ces faits ? Et ce qu'on observe ici, c'est quand même qu'on a des personnes qui sont... le complotisme repose sur un registre de la croyance, et vous avez beau rétablir des faits, si vous croyez que Trump, quoi qu'on en dise, est la personne... parce que c'est un homme, un vrai, etc. Donc quoi qu'on en dise, ce sera lui qui sera bon pour les États-Unis, enfin, peu importe les faits. Peu importe les faits, et voire même si des contrefaits sortent, vous pouvez dire, vous voyez, ce sont nos ennemis. Donc c'est ça qui est très difficile à combattre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut lâcher la bataille des faits, au contraire.
Merci beaucoup.
Est-ce que je peux vous glisser un dernier
point ? Alors, le mot de la fin, oui.
Oui. Par rapport à la question du rétablissement de faits, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais ce qui est crucial, c'est justement d'être lucide par rapport à cette démarche. C'est-à-dire que les scientifiques peuvent se tromper, les journalistes peuvent se tromper. Les idiots de méthode, c'est des choses qui vers quoi il faut tendre, mais qu'on n'atteindra jamais.
Et tout à fait.
Grave, nous sommes biaisés également.
On est arrivé, désolé, au bout de cette émission. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Aline Biette qui l'a préparé, à Souad Boukorsa qui l'a réalisé et mis en onde. Alors, je vous indique que si vous voulez entendre parler de l'affaire Epstein en elle-même, je vous recommande L'Esprit Public ce dimanche à 11h avec Astrid de Villene. Que dit l'affaire Epstein de l'état de nos démocraties ? Et merci aussi à Elena Voison qui a assuré ce duplex avec Bruxelles. À bientôt.